Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de Quasimodo. L'épître est tiré de Saint Jean, première épître de Saint Jean. Mes bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu comporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui atteste que le Christ est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et les trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Et c'est bien là le témoignage de Dieu qui a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage de Dieu en lui-même. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile. Selon Saint Jean, en ce temps-là, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint et se présentant au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit une seconde fois « La paix soit avec vous ». Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. Mais Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. Si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples étant encore dans le même lieu, Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et se tenant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mettez ici votre doigt et regardez mes mains. Approchez ici votre main et mettez-la dans mon côté et ne soyez pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que vous m'avez vu, Thomas, vous avez cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en vous. Veuillez vous asseoir. D'abord, quelques annonces. Attention, cette semaine, donc messe à 8h tous les jours. Le vendredi et samedi, je ne serai pas là, donc j'ai ma petite mission à Andorre. Donc pas de messe. Vendredi et samedi, cours de doctrine à 19h ce mercredi. Donc j'ai terminé mercredi dernier la grande encyclique de grand décret de Saint Pie X, Lamentabili. Nous commencerons Pascendi ce mercredi prochain. Donc, surtout ceux qui m'écoutent sur Internet et qui ne peuvent pas évidemment venir à ces cours à cause des distances, faites attention de bien étudier ces textes. Alors, on va commencer Pascendi qui est certainement avec Quantacura de Pie IX en 1864, certainement les deux textes les plus importants du magistère de l'Église des deux derniers siècles, Pascendi et Quantacura. Donc étudiez ces textes pour connaître la doctrine et étayer votre foi, la fixer sur des choses sûres, la vraie doctrine de l'Église. Nous avons maintenant rajouté sur le site internet dame-marie.net. Nous avons un dossier de plus en plus complet sur le pape Pie XII. Donc, il y a un nouveau texte qui a été rajouté, écrit par un homme qui a fait deux lettres remarquables sur le sujet, donc pour bien nous aider à garder l'esprit d'Église. Vous savez que le pape Pie XII est méprisé par beaucoup, beaucoup de catholiques dans la tradition qui refusent d'obéir à Pie XII dans toutes ces réformes qu'il a faite en continuation de la réforme liturgique qui avait été commencée par le pape Saint Pie X. Et on tombe très vite dans le schisme. Donc c'est très important de connaître encore une fois la doctrine sur ce sujet. Donc tous ceux qui ont des doutes, qui ont du mal peut-être à comprendre pourquoi le pape Saint-Pie X a rajouté par exemple la fête de Saint-Joseph, ou pourquoi il a fait certaines modifications dans les cérémonies de la Semaine Sainte en 1955. Étudiez ces textes pour vraiment, encore une fois, asseoir votre foi catholique sur la doctrine, et pas commencer à rentrer dans le subjectivisme avec chacun qui en fait un peu sa tête. C'est pas du tout l'esprit de l'Église catholique. Attention, demain, donc, c'est la grande fête de l'Annonciation qui est reportée, puisque cette semaine, elle tombait pendant la Semaine Sainte, et à ce moment-là, elle est reportée au premier jour libre, après le dimanche de Quasimodo. C'est donc demain qu'on fête l'Annonciation, qui vient du 25 mars. Donc, vous aurez la messe ici à 8 heures. Pour les retraites, donc, toutes les retraites sont pleines, sauf la dernière, celle du 9 au 14 septembre, il y a encore une place. Donc, s'il y a des gens qui souhaite venir à cette dernière retraite, qui me contacte. Donc, les travaux avancent de plus en plus dans la chapelle. Donc, ils ont placé le banc de communion, un magnifique confessionnal en chêne massif qui est splendide. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont travaillé dur pour établir tout cela. Donc, le banc de communion est là, l'autel est là, l'escalier est là, tout petit à petit se met en place et Dieu aidant, tout sera bien prêt pour le 15 août prochain. Je confie aussi à vos prières un petit ménage qui s'est formé hier. Donc hier, j'ai eu la chance et la grâce de pouvoir marier deux jeunes de la région bordelaise qui ont dû se marier ici. Et donc, priez pour eux. Merci aussi pour tous ceux qui continuent d'envoyer des dons. Hein, les travaux coûtent cher, comme vous le savez. Alors merci pour tous ces gens qui régulièrement envoient des dons, des petits et des gros, souvent que je ne connais pas encore une fois. Je ne peux pas remercier tout le monde parce que souvent je n'ai pas les adresses, je n'ai pas les numéros de téléphone et je ne peux pas les remercier. Parfois j'ai le nom, parfois j'ai même pas les noms. Donc qu'ils sachent qu'ils sont dans mon cœur de prêtre et que nous prions le rosaire tous les jours, le chapelet tous les jours pour tous ces gens qui nous aident à construire cette chapelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis. L'épître de Saint-Jean d'aujourd'hui et l'évangile à la fin nous rappellent la même chose, l'importance de la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. On touche là certainement au dogme de foi le plus important de toute la foi catholique. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, vain est notre foi. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, son Église n'est pas divine. Pour cela que le démon a suscité toute une série d'hérésies très tôt. C'est qu'une des plus grandes hérésies contre la foi catholique, c'est l'hérésie arienne. Arius était un hérétique qui a nié justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prétendait que notre Seigneur Jésus-Christ était la première des créatures. Jouant sur les mots, parce que je vous ai déjà expliqué, il faut bien comprendre cela, qu'il y a en notre Seigneur Jésus-Christ une partie créée, c'est vrai, mais il est Dieu. Son âme est créée, son corps est créé. Encore une fois, faire attention à ce qu'on dit. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien de créé entre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, mais il est aussi homme. En tant qu'homme, il est créé, en tant que Dieu, il est éternel. Comme c'est la même personne qui est à la fois divine et humaine, eh bien, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est le fondement même de toute la foi catholique. Bien s'accrocher à ça. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ va donner un coup de semonce, littéralement, à ses disciples et à ses apôtres. Toute la semaine qui suit la grande fête de Pâques, l'Église, dans ses évangiles, va reprendre les grandes apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Et là se place un phénomène qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que c'est une leçon terrible que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a passé 3 ans de vie publique. Il a prêché à ses disciples, à ses apôtres, et qui ont vu sa divinité, qui ont eu toutes les preuves de sa divinité par l'accomplissement des prophéties d'Ancien Testament, par tous les miracles qu'il avait faits. Notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer plusieurs fois à ses disciples, 3 fois au moins, qu'il allait mourir, qu'il allait être tué par les Juifs, qu'il allait être crucifié par nos péchés, et que le troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts. Eh bien, les disciples ont oublié cette promesse essentielle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples, les apôtres, qui ont pourtant été préparés de façon extrêmement, extrêmement forte par notre Seigneur Jésus-Christ, vont tous perdre la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de Pâques. plus exactement le vendredi saint, quand ils vont voir notre Seigneur Jésus-Christ traité comme le dernier des esclaves, crucifié. Et on perd la foi. Ils vont tous oublier, on se sauver comme des lapins, et ils vont oublier qu'il était Dieu et qu'il avait promis, je ressusciterai le troisième jour. Et le coup de semence donné par notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu va littéralement punir ce manque de foi. Il va leur donner une leçon terrible. Parce qu'ils ont perdu la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va leur apparaître, après la résurrection, ils ne vont pas le reconnaître. Et pour être sûr qu'on comprenne bien le message, notre Seigneur Jésus-Christ va répéter ce phénomène 3 fois. D'abord avec Sainte Marie-Madeleine. Pourtant, Dieu sait s'il aimait Sainte Marie-Madeleine. Une des plus grandes saintes de l'Église catholique. Sainte Marie-Madeleine était pleine d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a conservé cet amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre cela. Les apôtres ont conservé leur amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils pensent qu'il est mort de façon définitive. Ils ont oublié qu'il allait ressusciter. La preuve, c'est que Sainte Marie-Madeleine, elle vient au lieu du tombeau, au lieu de notre Seigneur Jésus-Christ a été enterré, avec des épices, avec les onguents, pour achever la toilette mortuaire. Donc elle ne croyait plus qu'il allait ressusciter entre les morts. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, et là est le message terrible de notre Seigneur. Elle ne reconnaît pas son maître. Elle le prend pour le jardinier. Et pour être sûr qu'on comprenne bien ce message, Dieu va répéter 2 fois encore ce même phénomène. Après, c'est les disciples d'Emmaüs, Saint Luc et Saint Cléophas. Cléophas, c'est le frère de Saint Joseph. Saint Luc et Saint Cléophas, je vais expliquer, vont à Emmaüs complètement découragés, en désolation complète. Notre Seigneur Jésus-Christ leur apparaît, ils les reconnaissent, pareil, même chose. Ils ne le reconnaissent pas. Et la troisième fois, c'est pour la deuxième multiplication, deuxième pêche miraculeuse. Pareil, les apôtres vont pêcher et puis ils ramènent rien du tout dans leur filet. La pêche a été infructueuse, totalement infructueuse. Et notre Seigneur Jésus-Christ leur apparaît encore une fois sur le bord, sur le rivage. Et même chose, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur. Pourquoi ce message ? Eh bien, justement, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est le grand message de Pâques, finalement, même s'il est caché derrière les lignes de l'Évangile, le grand message de Pâques, il est là, mes bien chers frères. Si on n'alimente pas notre foi, et si on perd la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on va tomber dans un châtiment terrible qui s'appelle la cécité intellectuelle, la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Et à cause de cet aveuglement spirituel, on ne reconnaît plus notre Seigneur. C'est terrible. Et il ne faut pas oublier une chose. Si des très grands saints, comme Saint-Pierre, comme Sainte-Marie-Madeleine, comme tous les apôtres, comme Saint-Luc, Saint-Cléophas et tous ces grands saints, n'ont pas reconnu notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont perdu en partie la foi au moins, qu'en est-il de nous, mes bien chers frères ? Vous croyez qu'on est plus malin qu'eux ? Vous croyez qu'on est plus fort qu'eux dans la foi ? Donc nous aussi, nous pouvons tomber, et c'est là l'avertissement de Pâques, nous pouvons tomber dans cette cécité spirituelle, cet aveuglement spirituel, et oublier complètement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et les conséquences sont là, on tombe immédiatement, si on tombe dans la cécité spirituelle, on ne reconnaît plus notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'on a perdu la foi. Il ne faut jamais oublier ce message, mes bien chers frères. Et cette cécité spirituelle, cet aveuglement spirituel, et parfois une épreuve, parfois un châtiment de notre manque de foi. C'est peut-être une épreuve. L'Église nous enseigne que lorsque les gens montent dans la vie spirituelle, lorsqu'ils passent de la voie purgative, la voie d'initiation, on peut dire, à la foi catholique, à la voie illuminative, on passe par un épisode d'aveuglement spirituel terrible. On l'appelle la nuit des sens. On ne ressent plus rien. On venait souvent chercher les consolations du bon Dieu et puis on perd ces consolations sensibles. Le bon Dieu nous purifie. Et pour ceux qui continuent de monter, lorsqu'on passe de la vie illuminative à la vie initiative, on passe par un deuxième aveuglement spirituel qui s'appelle la nuit de l'esprit, encore plus fort que le premier. Les très grands saints sont passés par là. Sainte Thérèse de l'âme de l'enfant Jésus est passée par cet aveuglement spirituel pendant longtemps. Et elle disait, elle écrit dans son manuscrit, ses manuscrits autobiographiques, qu'elle avait l'impression d'être dans un tunnel. Elle avait encore la foi, elle voulait aimer le bon Dieu, elle l'aimait toutes ses forces, mais elle ne sentait plus rien. Elle disait, j'étais dans un tunnel, je voyais simplement au bout du tunnel un petit point lumineux, je savais qu'il y avait une sortie, c'est tout. Elle est restée comme ça pendant des années, dans son couvent. Alors rassurez-vous, nous on n'est pas des grands saints, alors en général quand on a des cécités spirituelles, des aveuglements spirituels, ça ne dure pas aussi longtemps. Mais parfois c'est aussi un châtiment de l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous fait tomber dans la cécité spirituelle. Parce que par l'orgueil, on compte beaucoup trop sur nos propres forces. Et tombant beaucoup trop sur nos propres, comptant beaucoup trop sur nos propres forces, le bon Dieu se retire, au moins en partie, au moins pour un certain temps. Il se retire de nos âmes en nous disant, tu veux t'en tirer tout seul? Eh bien, je te laisse tout seul. Tu essayes de garder la foi par tes propres forces. Regarde les conséquences. Oui, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes des petites gens, eh bien, chers frères. Tous, moi le premier. Les exemples encore abondent pendant sur tous les évangiles de cette semaine. C'est un petit peu de temps cette semaine. Vous pouvez relire les évangiles de ces jours entre le jour de Pâques et la fête du dimanche de la Quasimodo. Il y a un évangile différent avec toutes ces grandes apparitions. Regardez par exemple Sainte Marie-Madeleine. Quand elle reconnaît finalement notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle appelle par son prénom, se précipite à ses pieds et notre Seigneur dit une parole étonnante. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Et attention, cette parole peut être dite de deux façons. Soit c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous met à l'épreuve. Il a donné une épreuve terrible à Sainte Marie-Madeleine. Et il peut nous dire, ne me touchez pas, parce que ça veut dire, vous n'êtes pas encore capable de me posséder complètement. Ce sera au ciel que vous pourrez me posséder complètement. Mais parfois, mes bien chers frères, et ça qui est terrible, c'est nous qui disons cette phrase. Nous qui parfois disons, bon Dieu, ne me touchez pas, laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix. Parce qu'on est un peu découragé, parce qu'on se révolte d'une façon ou d'une autre contre Dieu, son autorité. On a parfois tendance à dire au bon Dieu, laissez-moi tranquille. Ne venez pas m'importuner avec votre grâce. Ne venez pas m'importuner avec votre amour de la croix. J'en veux plus de toutes ces choses-là. Je ne veux plus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qui entraîne la cécité spirituelle. On voit la même chose avec les pèlerins d'Emmaüs, et là c'est encore plus clair. Il faut bien comprendre ces évangiles. Saint Luc et Saint Cléophas quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs, sont complètement découragés, ils sont en désolation totale. Et l'évangile l'a fait bien remarquer. Et notre Seigneur Jésus-Christ se joint à eux, et leur dit, mais pourquoi êtes-vous tout triste? Vous parliez tout triste, de quoi parliez-vous? Et ils vont répondre, ils vont expliquer, nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons qu'il allait rétablir le royaume d'Israël, mais il est mort, il est ressuscité, tout est fini. Et notre Seigneur Jésus-Christ va leur faire ce doux reproche, ô vous au cœur froid, ô vous au cœur tiède. Vous connaissez l'histoire? Il va après faire mine de partir sur le côté. Non, non, restez avec nous. Ils n'ont pas encore compris qu'il est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils le connaissaient, ils ne le reconnaissent pas. Et à l'auberge, notre Seigneur Jésus-Christ va commencer les paroles du Saint-Sacrifice de la Messe. Et à ce moment-là, leurs yeux vont s'ouvrir. Et là, on voit dans les âmes de Saint-Luc et Saint-Cléophas un changement total d'attitude. Et l'évangile fait... Ils repartent tout joyeux. C'est aussi retrouver la joie. Ils partent en courant vers Jérusalem pour avertir les disciples. Et ils se disaient entre eux, notre cœur n'était-il pas tout brûlant d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ après que nous l'ayons vu? Et là, on voit bien, mes bien chers frères, on a perdu notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit? Tristesse, confusion, aveuglement, attraction pour les choses mondaines et les choses superficielles. Et les choses laides. On retrouve notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit? Paix, joie, lumière, attraction vers les choses divines. C'est une leçon pour nous, bien chers frères. Nous aussi, nous passons par des moments de désolation terrible. Et dans les moments d'isolation, il faut ne jamais perdre justement ce contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et pouvoir dire à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que votre volonté soit faite par la mienne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui commande tout cela. Et ne jamais oublier, et surtout ne pas oublier la grande, grande règle, la règle d'or que ceux qui ont fait l'exercice de Saint-Ignace connaissent bien, la grande règle d'or pour tous ceux qui sont dans la désolation. En période de désolation, on ne change rien, on attend. Beaucoup de gens ont tout envoyé promener parce qu'ils étaient en désolation. Ils disent, puisque c'est comme ça, je m'en vais. J'ai connu des gens qui ont changé de religion en période de désolation. Ils sont passés au protestantisme. J'en ai connu. Vous voyez ? Alors, il faut méditer là-dessus. Autre exemple que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile d'aujourd'hui. L'apparition à Saint Thomas. Saint Thomas avait dit, si je ne mets pas mon doigt dans les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaies des mains, des pieds, du côté, les mains, les pieds et le côté de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne croirai pas. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire une apparition spéciale 8 jours après la première aux apôtres, rien que pour Saint Thomas. Et quel est le message que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ? Dans les périodes de désolation, il était en pleine désolation, il a perdu lui aussi la foi. Quand l'Évangile nous fait remarquer qu'il exige cela, c'est bien parce qu'il avait perdu la foi en divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel conseil qu'il nous donne notre Seigneur Jésus-Christ? Période de désolation, allez vous réfugier dans les plaies sacrées de notre Seigneur Jésus-Christ. La tentation terrible de faire avec vos mains des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Allez vous réfugier dans la plaie des mains. Pour moi aussi bien sûr, nous avons la tentation de faire avec nos pieds des choses qu'on n'a pas le droit de faire, d'aller dans des endroits qui sont indignes pour un catholique. Que devons-nous faire? Allons nous réfugier dans les plaies des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tenté d'aimer quelqu'un que je n'ai pas le droit d'aimer. Je suis tenté d'aimer de façon sensuelle, de façon sentimentale, ou pire, quelqu'un que je n'ai pas le droit d'aimer. Qu'est-ce que je dois faire? Allons nous réfugier dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, la plaie du côté. J'ai la tentation de penser de façon individuelle, de croire en liberté de conscience. Qu'est-ce que je dois faire? Allons nous réfugier dans les plaies provoquées par la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ pour lutter contre l'orgueil. Voilà tout ce que nous indique notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien chers frères. Il nous faut, nous aussi, aller chercher auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, le courage de porter notre croix. C'est pour cela que dans le siège pascal, il y a ces 5 coups d'encens qui représentent justement les 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaies des pieds, les plaies des mains, les plaies du cœur. Vous voyez, c'est là la leçon de Pâques. Ne pas croire que parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, alléluia, tout est magnifique. Non, attention, le combat continue, mes bien chers frères. Et avec la dernière apparition, c'est la même chose. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ aux disciples qui sont allés pêcher, qui n'ont rien pris toute la nuit. Ils sont en pleine désolation parce qu'ils n'ont rien à manger. Regardez la délicatesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va faire un grand miracle. Il leur a demandé, vous avez du poisson? Le genre de questions qu'il ne faut pas poser à un pêcheur qui rentre bredouille. On n'a pas de poisson. J'ai des filles à droite, là. Il y a du poisson. Et Saint-Pierre, désabusé, sous le conseil de Saint-Jean, jette le filet. Et l'Église, le Saint-Esprit, écrivant la Sainte Bible, nous donne même les chiffres. 153 gros poissons. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez qu'il va donner un grand discours? Sur la nécessité de la foi, il sait que ses fidèles sont fatigués. Il sait que ses fidèles sont découragés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prépare le petit déjeuner. Il a fait un feu. Il y a même le menu qui est donné. Du poisson grillé, évidemment. Des rayons de miel. Et du pain grillé. Mais ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis complètement découragé. J'ai envie de tout abandonner. J'ai envie de me faire témoin de Jéhovah ou protestant ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va s'approcher de nous, va nous dire de nous inviter au petit déjeuner. Et le déjeuner spirituel, la nourriture de notre âme, c'est quoi? C'est la messe. C'est tout le symbole de la Sainte Messe. Et vous voyez, on voit très bien aussi un autre détail qui est très intéressant, que peu de gens connaissent. Les apôtres ont été ordonnés prêtres le jeudi saint. avant Pâques. Ils sont prêtres, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs du prêtre, pas encore. Ils ont déjà le pouvoir de changer du pain au corps de Jésus. Ils ont le pouvoir de changer le vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, pas encore. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Et l'évangile d'aujourd'hui, justement, nous est donné après Pâques. Parce que c'est après la résurrection que notre Seigneur Jésus-Christ va souffler sous ses apôtres, dit l'évangile, et va leur donner le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce détail qui est très important est resté dans la liturgie de l'ordination sacerdotale. Pour ceux qui ont déjà assisté à une ordination sacerdotale, l'ordination du prêtre, lorsque le prêtre est ordonné prêtre, l'évêque va venir imposer ses mains sur la tête du prêtre pour lui donner le caractère sacerdotal. Mais le prêtre, à ce moment-là, qui est déjà prêtre, va avoir une chasuble qui va être repliée sur les épaules. Elle n'est pas déployée derrière, parce qu'il manque encore le pouvoir. Ensuite, la messe est célébrée. À la fin de la messe, le jeune prêtre, qui n'a pas encore tous les pouvoirs, revient devant l'évêque. Et l'évêque lui refait une deuxième imposition des mains. Et cette fois-ci, il lui donne le pouvoir de pardonner les péchés. Et un servant de messe vient enlever les épingles qui tiennent la chasuble repliée sur les épaules pour que la chasuble se déploie pour bien montrer que le prêtre est maintenant prêtre, avec tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs du prêtre, bon, et un pouvoir qu'il n'a pas évidemment, c'est le pouvoir de consacrer notre prêtre. Ça, c'est réservé à l'évêque. Oui, mes bien chers frères, comme toutes ces choses sont tellement importantes. Et notre Seigneur Jésus-Christ encore nous aide à comprendre la dignité extraordinaire du prêtre. Et donc il nous faut, mes bien chers frères, surtout dans les périodes de découragement, on passe tous par des périodes comme ça, et on passera de plus en plus par des périodes comme ça, parce que le bon Dieu permet des épreuves terribles pour la foi catholique, et de plus en plus. Et bien c'est là où il faut apprendre à savoir s'humilier, par ce sacrement magnifique qui s'appelle le sacrement de pénitence. Savoir se mettre à genoux devant le prêtre et dire « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Et s'il y a un moment où le prêtre est père, c'est justement au confessionnal. Pourquoi c'est la coutume en France? Je ne sais pas exactement d'où vient cette coutume. Même si on appelle ordinairement en France au moins les prêtres monsieur l'abbé, les prêtres séculiers monsieur l'abbé au confessionnal, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Bénissez-moi monsieur l'abbé parce que j'ai péché ». C'est toujours « Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché ». Pour bien montrer justement le côté paternel du pardon des péchés. Et ne jamais, jamais se décourager. Parfois, on a des gens qui viennent, qui nous disent, monsieur l'abbé, j'en ai plein sur la conscience. Est-ce que je vais sortir le fouet? Je dis toujours la même chose. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Ici, c'est le club des pécheurs, dont je suis parti d'ailleurs. Et donc, plus vous avez commis de péché dans le passé, plus vous avez besoin de la miséricorde du bon Dieu, et plus le bon Dieu vous offre justement cette miséricorde en vous demandant d'aller vous cacher dans ces plaies sacrées. Vous cacher dans les plaies des pieds, les plaies des mains, les plaies du cœur, les plaies de la couronne d'épines. Donc ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Et passons bien sûr par celle qui est restée fidèle jusqu'au bout. Tous les amis de notre Seigneur Jésus-Christ ont perdu la foi, sauf une personne, notre Sainte Vierge Marie. Elle a conservé la foi. Et on voit très bien, notre Sainte Vierge Marie n'est pas allée avec Sainte Marie-Madeleine pour finir la toilette mortuaire de son divin fils, parce qu'elle savait qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Elle reste à attendre. Et les pères expliquent que si notre Sainte Vierge Marie a attendu en priant. Et elle va même réussir à, puisque c'est la seule personne capable de changer la volonté de son fils, elle va même obtenir un raccourcissement du temps prévu par notre Seigneur Jésus-Christ à passer au tombeau. Il avait parlé de 3 jours. Exactement, il avait dit qu'il ressusciterait, non pas après 3 jours, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. C'est le 3e jour. Il est mort vendredi, un jour, samedi, un jour, dimanche, un jour. Mais enfin, vous voyez que ce n'est pas 3 jours complets. à ton Sainte Vierge Marie est intervenue. Elle a dû dire à son fils dans ses prières, « Mon fils, n'attendez pas trop. Ils sont tous complètement découragés. Saint Pierre, il pleure à chaque fois qu'il y a un coq qui chante dans la ville de Jérusalem. » Et notre Seigneur Jésus-Christ va écouter sa mère. Et nous, c'est pareil. Je suis découragé parce que les choses, les temps sont difficiles, parce que je suis en désolation, parce que j'ai envie de tout envoyer promener. Qu'est-ce qu'il faut faire? Passer par la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, nous aussi. Et savoir dire à Notre-Dame, très sainte mère, demandez à votre fils de revenir, s'il vous plaît. Je sais qu'il a peut-être prévu de revenir que le troisième jour, mais là, je suis vraiment en désolation. Vous avez de la puissance sur lui. Il va obéir à ce que vous demandez, parce que vous êtes sa mère. Allez lui demander de venir plus tôt. Et si vous passez par la très sainte Vierge Marie, commencez par la rentrer dans votre cœur à vous. Et si la très sainte Vierge Marie est dans votre cœur, et qu'elle appelle notre Seigneur Jésus-Christ, parfois il se fait un peu tirer l'oreille quand on appelle. Mais si c'est sa mère qui appelle, il arrive tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Parce qu'elle est sa mère. Nous passons par la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Ne nous décourageons jamais. Passons par celle qui n'a jamais péché, la très sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes les grâces, co-rédemptrice du genre humain. Et demandons-lui de nous aider à ne jamais, jamais perdre la foi. Et si notre foi est un peu défaillante, eh bien répétons ce magnifique acte de foi. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, vous enseignez par votre Église, parce qu'étant Dieu, vous ne pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. Et vous rajoutez l'acte de charité. Et deux ensemble, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme, par-dessus toute chose, j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Et deux ensemble, ça forme un acte de charité parfaite. Et l'acte de charité parfaite efface tous les péchés. Même si vous ne pouvez pas venir vous confesser immédiatement parce que vous avez été trop loin du prêtre ou le prêtre n'est pas là, demandez cet acte de charité parfaite et tous vos péchés seront effacés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.